Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio.
Qu'est-ce que ça veut dire, la sororité ? Être sororelle ? Sur le papier, je crois qu'on sait très bien. Ça veut dire se serrer les coudes, se défendre entre femmes. Mais dans les faits, parfois, c'est plus compliqué que ça. Avec mon collectif de journalistes indépendantes, les Journalopes, nous avons écrit noir sur blanc dans notre charte qu'on avait le droit d'être saoulées les unes par les autres. Que la sororité, ce n'était pas l'hypocrisie ni la perfection. Mais qu'on se devait respect et intégrité. C'est un peu cette ligne que j'essaye, je dis bien j'essaye, de tenir dans ma vie avec les autres femmes. Mais quand j'ai lu le livre d'Enora Malagré, vous savez, c'est une comédienne et ancienne membre de TPMP, Touche pas à mon poste. Son livre s'appelle « Un cri du ventre ». Et donc, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que je l'avais jugée beaucoup trop vite. J'avais cru ce que la presse People racontait d'elle, que c'était une grande gueule, une sale gamine du paf. Comme d'habitude, en fait, dès qu'une femme a un peu de pouvoir, ses propos sont caricaturés, déformés, sa personnalité est montée en épingle. Et c'est une toute autre femme que j'ai découverte dans son livre. Une snipeuse lucide et critique sur les dérives de la télé. Une femme courageuse d'avoir été la première à porter publiquement son combat contre l'endométriose. Une personne sincère aussi, qui raconte la notoriété et le grisement du début des années télé. Les fringues chères, le champagne, les allers-retours à New York. Même si on peut se demander quelle est sa part de responsabilité dans le développement de la télé type TPMP, d'ailleurs, on va lui demander, je vous propose de redécouvrir Enora Malagré. Peut-être que c'est ça la définition de la sororité d'ailleurs, se méfier des apparences et poser les vraies questions directement à celles qui les concernent.
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi ?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On peut plus rien dire.
Enora Malagré, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes comédienne, productrice, autrice de Un cri du ventre. Vous êtes actuellement en tournée avec votre pièce dans toute la France qui s'appelle Derrière le rideau. Et vous aviez explosé aux yeux du grand public à l'époque où vous étiez chroniqueuse chez TPMP. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va passer la prochaine heure ensemble. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue.
Mais merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être là.
Eh ben nous aussi. J'aimerais commencer en revenant sur un moment clé, je pense, de votre carrière.
C'était carrière. On en est là, ça y est, je peux dire ça.
Ah ouais, on peut dire ça, il faut oser, mais oui, on construit sa carrière. C'était en février 2017, moi c'est comme ça que je vous ai découverte. Vous étiez au cours d'un prime, donc dans cette émission TPMP. Il y a un internaute qui vous pose une question sur votre amoureux, votre vie privée. Et là, vous décidez de lui répondre la vérité. J'aimerais que juste on réécoute ce petit moment.
On a une autre question, une question Twitter, c'est parti. Enora, t'as l'air amoureuse, à quand un enfant avec Doumé ?
Oh la vache.
Ah, en plus ce qu'il y a de bien avec Enora, c'est quand on va faire un enfant, elle pourra lui prêter ses habits. Elle a déjà tous les habits, c'est un truc de ouf. Alors,
un peu tôt. Allez,
il faut dire toute la vérité.
Alors, c'est un peu tôt déjà et...
Le mariage déjà, peut-être, Enora.
Ah ben ça, j'adorerais, mais c'est un peu tôt aussi.
Est-ce que vous en parlez ?
Non, pas encore.
Est-ce qu'il peut... Je pensais qu'il pourrait vous... venir vous demander...
Non.
Parce que s'il vous demande, vous ferez comme ça. Oui, je veux bien.
Oui, je veux bien. Non, tout ça est un peu tôt, mais moi j'ai un petit souci, c'est le problème de la vérité, c'est que moi j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose. Ah. Et j'ai d'autres soucis et c'est compliqué d'avoir des enfants pour moi.
D'accord, Eno. Bah, très bien. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur avec Doumé.
Oui.
Et on espère qu'il y aura un mariage.
Ouais, mais j'espère que vous serez tous invités.
Bah, contrairement à Gilles.
Sauf Gilles.
Non, si Gilles sera invité, bien entendu.
Vous avez... Je vois que vous êtes hyper agacée.
Je suis agacée et puis j'entends la jeune femme qui souffre. Moi, j'entends les trémolos dans ma voix à ce moment-là. Je me souviens très bien. Au moment où je le dis, je serre la main de mon ami très cher Jean-Luc Lemoine. je suis agacée parce que j'entends, c'est pas la première fois que je réentends cet extrait, mais je l'ai pas entendu tant de fois que ça. J'entends l'indifférence en fait totale et la façon dont c'est balayé en fait. J'en veux à personne, hein, je veux dire, mais c'est vrai que moi je sors une bombe, je me délivre. Pour le coup, c'est un cri du ventre. C'est bien pour ça que j'ai appelé mon bouquin comme ça. Et c'est balayé. Vous l'avez entendu.
Oui, complètement. Bon, il passe à autre chose.
Bonheur. Bon, on passe à autre chose. Alors qu'on a là le témoignage quand même d'une jeune femme qui parle d'une maladie, et on en parlera peut-être après, mais qui touche une femme sur 10 et qui est très handicapante. Bon. Donc cet extrait, il n'est pas agréable à réentendre, évidemment.
Et c'était en 2017, la maladie, elle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Mmh. Vous aviez prévu d'en parler ou c'est venu comme ça
Non, je n'ai pas prévu d'en parler. C'était un moment de ma vie où moi, j'étais vraiment très, très, très malade. À ce moment-là, ce mois-là qui se déroulait, ce mois de février. Et on n'arrêtait pas de me poser cette sempiternelle question qu'on ne pose pas aux hommes, hein, d'ailleurs, mais qu'on pose à une femme après 35 ans, comme par hasard. Je n'avais pas encore pondu, hein, donc ça semblait louche. Et il y avait... C'était un peu il y a eu une part d'agacement et puis c'est cette petite souris de capucine à nave qui était à ma gauche et mon ami Jean-Luc Lorraine qui m'ont soufflé à l'oreille pendant que la question était diffusée, dis-leur, parce que je pense qu'ils sentaient que j'avais besoin peut-être d'en parler, j'en sais rien. Donc ça a été vraiment, c'était évidemment pas prévu. Et puis surtout, ça a un peu changé ma vie, cette histoire, parce que je me suis rendu compte à quel point ça avait touché beaucoup de femmes. Et j'étais une des premières à en parler. Et on connaît maintenant ce à quoi ça a servi. Donc voilà, mais c'était fou la façon dont ça s'est fait.
Juste après, vous vous sentiez soulagée, inquiète?
Non, j'avais honte. J'avais honte. Oui, je sais pas. Vous savez, c'est vraiment le problème des femmes... Dès qu'on dévoile une chose de nous, on a honte. Hein. On est quand même très formaté pour ça, malheureusement. Heureusement, on se bat contre ça en ce moment. Mais non, j'avais honte. Je me suis demandé la question. Je me suis posé la question pourquoi j'avais délivré ça. J'ai trouvé ça d'une impudeur totale. Et puis tout de suite, je me suis dit ça va se voir. Enfin, je sais pas. Je me suis raconté tout un truc un peu. Un peu psychiatriquement étrange. Et puis, comme ça a été reçu dans une indifférence totale, ça renvoie en plus, je trouve, à une honte. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai été dire ça? Et quand je suis sortie de l'émission, c'est juste à ce moment-là que j'ai su, mais pas des centaines, hein, des milliers de messages, des milliers vraiment, voire même des millions, hein, de messages de femmes qui m'ont dit merci. Je me suis dit, oulala, ah oui, d'accord, ça touche donc véritablement une femme sur 10, et je ne vais donc pas rien faire de cette parole que j'ai enfin réussi à libérer.
Vous avez écrit dans votre livre « Je suis une grande gueule avec une mission » ou avec un message, non?
C'était si prétentieuse que ça. Oui, c'est possible. En tout cas, là, pour une
c'était
fois...
C'était votre mission.
Oui, non, mais pour une fois, moi qui ai quand même vociféré pendant pratiquement 7 ans, parfois pour ne rien dire... Pas toujours. Hein. Mais là, il m'a semblé que j'allais pouvoir enfin peut-être être un peu utile.
Ce qui est hyper intéressant quand on lit votre livre « Un cri du ventre », que moi j'ai trouvé passionnant, que j'ai dévoré en une nuit, c'est qu'on se rend compte que pendant ces 7 années justement de télévision, vous avez vraiment énormément souffert, que c'était extrêmement difficile. Et on se dit, mais à quoi ça devait ressembler de passer tous les jours de l'extrême douleur à l'extrême exposition?
Je crois, alors déjà, je pense que c'est le cas pour tous les boulots. Je pense qu'on endosse un costume quand on va au travail, qui peut d'ailleurs ressembler à une armure parfois. Ça a été mon cas, comme nous toutes. Je crois que justement, j'avais très très mal et ce personnage un peu que je campais dans Touche pas à mon poste, voilà, très truculent, très tout en couleur, m'a aussi un peu aidé à faire taire aussi un peu la douleur parce que, encore une fois, il y avait quand même une part de jeu, donc l'adrénaline qui va avec, et ça a fait un peu taire la souffrance par moment. Donc je crois qu'au contraire, j'ai eu un petit peu de chance. Et puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir masquer encore plus ma maladie. Enfin, je ne sais pas si c'est une chance, vous voyez, comme quoi je dois encore faire quelques séances de psy. Mais en tout cas, on arrive là, on est pomponné, on est maquillé, on est poussé dans l'arène, mais avec un joli costume, donc ça aide aussi. Moi, j'ai souvent été marquée par la douleur, par la prise de médicaments, il n'y paraissait rien. Puisque j'avais mon costume de scène et mon maquillage.
Aujourd'hui, vous retrouvez le théâtre, donc vous êtes à l'affiche d'une pièce derrière le rideau. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver le théâtre ?
Moi, j'ai commencé par ça. Donc, en fait, j'ai plus fait de théâtre que de télé. Finalement, 7 ans, ça paraît long, mais ce n'est qu'une parenthèse dans ma vie. J'ai quand même déjà, même si je suis jeune, 42 ans bientôt. Et toute ma vie d'avant, c'était le théâtre. Donc, c'est un retour aux sources. Et puis, j'y retourne avec plus de solidité, plus d'assurance et surtout plus de joie. Au début, quand on démarre, quand on est comédienne, on est fébrile, quoi. Moi, je me rends compte, là, vraiment, de la chance que j'ai de pouvoir retourner faire du théâtre, de retourner sur scène. Donc c'est libérateur pour moi et je me sens, je sais pas comment vous dire quoi, j'ai l'impression d'être au bon endroit quoi.
Ah bah c'est chouette ça, on est ravis pour vous.
C'est pas mal.
C'est un bon sentiment d'être au bon endroit au bon moment. Quand vous étiez petite, vous racontez que votre rêve c'était de recevoir un Molière. Est-ce que c'est toujours votre rêve?
Oui. Oh bah tant qu'à faire, ça n'arrivera sûrement jamais. Mais oui. Je crois qu'on est toutes un peu comme ça. À un moment, on se met devant sa glace, on prend sa brosse à cheveux et puis on espère un instant de gloire. Moi j'étais toujours plus petite que les autres, plus malingre. Donc je crois que j'avais très envie qu'on me regarde, quoi. C'est pour ça que j'ai parlé très fort, très tôt, je crois.
Ce qui est hyper intéressant dans votre livre, c'est que vous êtes d'une sincérité que je trouve précieuse. Et vous racontez aussi un peu, au début, l'euphorie de ces années télé. Vous racontez les belles fringues, les retours à New York, le champagne, les fêtes. C'était grisant au début, cette vie-là?
Oui, c'était grisant. Puis moi, je viens d'un milieu plutôt modeste, quoi. Et puis on a un rapport à l'argent qui est vraiment... pas honteux, je dirais, mais en tout cas, qui est pas normal. Alors là, moi, je suis tombée vraiment dans la caricature, quoi. Vraiment, ça m'a brûlé les doigts. J'avais envie de tout dépenser, j'avais envie de tout vivre très vite, très fort. Ça correspond aussi à mon caractère, mais j'ai tellement peur, comme j'ai grandi un peu avec la maladie, ma mère était malade, je suis malade, donc j'ai tellement peur que tout s'arrête très vite que je suis très boulimique de la vie. Donc, les 50 paires de pompes, enfin, j'étais Carrie Bradshaw, quoi. C'était une caricature. Alors qu'en fait, je ne suis pas comme ça dans le fond, mais je crois que j'avais envie d'y goûter à cette vie-là. Tout en ayant d'ailleurs complètement conscience que c'était pas moi, mais j'aimais bien ce petit personnage de la petite pépette, un peu princesse vulgaire, ça m'amusait.
Est-ce que cette notoriété, ça a eu des impacts que vous aviez pas forcément prévus, par exemple dans vos relations avec les proches? Est-ce que ça a changé des choses?
Oui, ça a beaucoup changé. Il y a eu deux choses. Premièrement, avec mes proches, je m'en suis éloignée évidemment un moment. Heureusement, ils m'ont rattrapée. J'ai la chance d'avoir uniquement des amis ou des proches qui ne font pas partie de ce métier, donc ils m'ont remis à ma place. Mais j'ai chopé un petit boulard à un moment, bien sûr. Et puis, par contre, j'ai goûté à la notoriété très soudaine, pas très légitime, parce que moi, je suis vraiment quand même pas grand monde. Enfin, je veux dire, je faisais rien de spécial à part faire l'andouille à la télé, quoi. Donc, et puis c'est une autorité qui est celle de la télé. Donc, elle est très. Les gens vraiment vous accaparent beaucoup, sont très intrusifs, etc. Je n'étais pas trop préparée. Et puis, il y a eu une anecdote quand même assez forte où quelqu'un a fait croire qu'il m'avait tuée dans mon appartement. Vous avez peut-être dû entendre parler de ça.
Enfin, mais c'est quelqu'un qui avait tweeté.
Qui avait appelé la police en disant « J'ai tué Nora Malgré, elle gît dans son sang. » Puis, il avait donné mon adresse, mon étage, le numéro de ma porte. Moi, j'étais en train de faire du yoga. La porte s'ouvre, c'est le GIGN quand même. Hein. Il me dit « Il est où ?» Je sais pas. Mais je ne comprenais pas. Ils vont voir ma coloc. Ils me disent « Vous êtes qui ?» Je suis Claire. Enfin, le truc complètement surréaliste. Et puis, en fait, on a retrouvé le type qui avait des mèches de cheveux à moi. Enfin, un truc un peu sordide à la Seven. Et ça, on se dit, mais enfin, c'est quand même surréaliste. Je suis quand même pas Madonna. Et ça m'a vachement traumatisée. Et puis, les couvertures de magazines qui peuvent amputer certaines relations aussi sentimentales. L'intrusion dans ma vie de famille. Enfin, bon, quand on n'est que moi, c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu la mauvaise partie. Et puis, la bonne partie, c'est de jamais faire la queue et puis de se faire offrir des crèmes. Ça, c'est pas mal.
Ouais, c'est clair. Et dans vos relations, vous racontez dans votre livre aussi que en date, on vous posait toujours des milliards de questions sur Hanouna, sur la télé, que c'était comme une interview avec Télé 7 jours.
Oh là là, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment bien fait d'écrire ça parce que c'est encore le cas.
Ah ouais.
C'est incroyable. Hier encore, j'ai fait un déjeuner qui était professionnel où j'y allais pleine d'espoir. Et en fait, le mec s'est payé un déjeuner avec Nora Malagré qui lui a permis d'avoir des petites infos sur les coulisses de TPMP. C'était surréaliste. Et à un moment, j'ai failli lui dire, mais on pourrait peut-être parler de ce projet. Et en fait, non, j'ai eu 30 minutes sur Hanouna, 30 minutes sur TPMP. Bon, bah, il restait 5 minutes pour moi.
Ah, ça colle à la peau.
Ah là là, mais alors c'est pas grave. Mais c'est surtout encore, à la limite, qu'on me parle de l'émission, je le comprends. J'appartiens à cette émission, je le comprends. Moi, qu'on me parle de la vie d'Hanouna et tout, mais je n'en sais rien, ma bonne dame.
Oui,
demandez-lui. Enfin, c'est très curieux. C'est, en même temps, ce qui trahit une fascination totale des gens pour Cyril, ça c'est certain.
Vous étiez fascinée, vous aussi ?
Oui, bien sûr. Bah, au début, non, parce que moi, je le connaissais en tant qu'ami. Donc, j'étais ni impressionnée, ni fascinée. C'est quelqu'un que je connais vraiment depuis 20 ans. Après, quand je l'ai vu, moi, évoluer, l'animal médiatique qu'il est devenu, l'animateur qu'il est devenu, parce qu'il a quand même inventé quelque chose de très nouveau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ah oui, ça m'a fascinée. Et je le trouve encore tout à fait fascinant. Là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la façon de se réinventer qu'il a... C'est enfin, ça fait quand même 12 ans qu'il fait une quotidienne. Bon, bah, c'est un cas d'école, ça n'est jamais arrivé.
Est-ce que ça faisait peur, ou est-ce que ça fait toujours peur aux hommes, une femme célèbre ?
Je ne sais pas si c'est la célébrité, je crois que c'est le pouvoir. Une femme, peut-être la célébrité, elle peut un peu fasciner dans le mauvais sens. J'en ai eu un petit comme ça que j'ai fréquenté. Donc, j'avais écrit un article sur lui d'ailleurs pour bien l'épingler, qui était là un peu pour le pognon et effectivement un peu pour la fête. Mais je crois que c'est surtout que les femmes de pouvoir font peur, toujours dans cette société quand même. Toujours très patriarcale et hétéronormée. Donc du coup, forcément, ouais... Une femme qui prend de la place, une femme qui parle fort, qui prend un peu la lumière, ça a tendance à déplaire, c'est sûr.
Vous, on vous l'a déjà fait remarquer ?
Oh oui, 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 oui. On m'a fait beaucoup de ce qu'on appelle du mansplaining. Et puis, j'ai eu des compagnons qui sont partis à cause de ça, à cause de la lumière que j'avais. Et puis aussi de ma personnalité. Je prends de la place, j'y peux rien. Bon, maintenant, ça me dérange pas de prendre de la place.
Vous écrivez, encore dans Le Cri du Ventre, « On m'attifait de robes moulantes, parfois vulgaires, de décolletés plongeants ou de talons impossibles. De toute façon, comment refuser ces attributs de cagole ? J'en ai rajouté. La représentation hyper-sexualisée de la femme en télé constitue pour moi une misogynie sournoise. Vous pensez qu'aujourd'hui, toute la télévision est un espace misogyne ?
Oui, oui, oui. Oui, oui, alors ça l'est, on y travaille, hein. Mais jusqu'à il y a très peu de temps, bien sûr. Bah, regardez par exemple, sur TF1, qui est la première chaîne d'Europe, qui est donc censée être quand même un peu la vitrine, il n'y a aucune femme de plus de 50 ans qui anime un divertissement. Ce sont des cautions ou des numéro 2. Il n'y a pas de femme noire non plus. C'est un milieu quand même très compliqué. Ou alors, quand elles ont plus de 50 ans, elles sont quand même... elles doivent faire de l'info, par exemple. Elles ont le droit de faire des choses sérieuses.
Ah oui, c'est ça. Oui, elles peuvent
exactement.
Oui, elles
mais par
faire
contre,
une interview politique.
Voilà, exactement. Ouais. Là, t'as le droit d'être un peu plus âgée et t'as le droit d'être un peu moins jolie ou tout du moins de pas faire partie de justement de ces critères de poupée, etc. En revanche, une jolie femme, voilà, de 50 ans, n'aura jamais accès à du divertissement. Moi, je m'étonne, par exemple, qu'Alessandra Sublet, qui est absolument divine et qui a plus de 45 ans, ne se retrouve pas à la tête d'une grande messe sur TF1.
Ah oui, c'est vrai.
Non, on lui donne 10 minutes, c'est Canteloup.
Ah,
ça va bien et ça suffit.
De quelle émission vous rêveriez, vous ?
Oh là, alors aujourd'hui...
Vous n'avez pas de retour à la télé ?
Non, pas tout de suite. On me propose des choses, mais c'est pour faire toujours un peu pareil. Donc moi, la grande gueule, j'ai donné.
Oui, c'est ça.
Après, non, mais c'est toujours un média qui m'intéresse. Il y a encore des choses à faire. Mais ça serait ou une émission culturelle. J'aime bien aussi le testimonial. J'aime bien aller à la rencontre des gens.
Aller demander des témoignages, c'est ça ?
Des témoignages, voilà. Faire accoucher un peu des consciences. Accompagner des gens, je sais pas. Mais là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui me fait rêver. Mais... Ou alors la place est déjà prise.
Et le podcast, ouais, ça vous dirait ?
Alors le podcast, on est en train de m'en proposer plein. Je ne sais pas chez qui aller, mais ça me plaît bien. Moi, alors, ça fait très vieille dame ce que je suis en train de dire. Non, mais je trouve que c'est un exercice fascinant que je découvre, moi... Voilà, que je découvre, qui sont quand même portés par la génération en dessous de la mienne. Et je trouve ça formidable. Enfin, il y a vraiment des modes de communication là, que je trouve fous et qui sont surtout extrêmement militants, libres. Moi, j'ai l'impression, via les podcasts, de retrouver la libre antenne que moi, j'ai connue et, à l'époque de Radio Nova, par exemple.
Oui, parce que vous avez commencé chez Radio Nova.
Racontez-nous
comment c'était Nova dans les grandes années.
Ah là là, mamie, raconte les années. Bah, c'était fou, quoi. J'ai connu Jean-François Bizeau. Moi, j'ai eu cette chance. J'ai été formée par Fadia Dimergy, qui était la cofondatrice de Radio Nova. Quoi vous dire, me retrouver... bon, j'ai pas dit un mot, hein, j'ai pas fait d'interview, je vous rassure tout de suite, j'étais juste leur spectatrice, mais de voir les Wu-Tang, MC Solar, qui devisaient avec Frédéric Tadei, c'est des moments qui sont précieux, quoi. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert Louise Bourgeois, comme Africa Bambaataa, comme... je sais pas, comme Larry Clark, enfin, moi j'ai fait toute ma culture... grâce à Nova, Nan Goldin. Alors, Nan Goldin, ça a changé ma vie, je l'ai découvert grâce à cette radio. Donc, j'y ai fait à peu près toutes les tranches musicales, beaucoup la nuit quand il n'y a plus personne, ce qui est pas mal. Ouais. On se retrouve face à soi-même.
Oui, c'est beau la radio la nuit.
Bah, c'est beau la radio la nuit, puis surtout la discographie et la bibliothèque de Radio Nova, c'est un temple sacré, quoi. Donc, j'y ai appris beaucoup de choses, puis j'ai fait des rencontres merveilleuses qui m'ont beaucoup, beaucoup appris.
Est-ce que ces rencontres, elles vous ont... Comment ils ont réagi, tout cet entourage, après, quand vous avez un peu changé d'environnement, que vous êtes passée à la télé ?
J'ai été déshéritée. Alors, pour les gens de Nova... Alors, en fait, moi, on m'avait dit, si tu veux faire quelque chose de militant, parle de Larry Clark ou de Jean-Michel Basquiat sur une radio comme Énergie. Sur Nova, c'est facile. Les gens sont acquis à ta cause.
Intéressant, oui, c'est vrai.
Donc du coup, quand j'ai été appelée par Coé, que je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était moi, pour faire une libre antenne à Énergie, que je n'ai fait que 9 mois certes, j'y suis allée en me disant que les mots de Jean-François Bizeau résonnaient justement. Donc je suis partie. Bon, j'ai un peu déchanté après, mais c'est vrai que alors, mon entourage proche n'a pas compris, les gens de Nova ont un peu plus compris, et je pense qu'ils sentaient en moi une valeur mainstream. voilà, et j'ai basculé dans le populaire, mais moi ça me plaît bien, ça me correspond bien. Et maintenant, j'essaie de concilier les deux.
Oui, moi, c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant chez vous, c'est que vous êtes un peu capable de tout faire. Vous pouvez faire les trucs de Arte, réciter des poèmes comme Fort Boyard. Ouais. Et c'est ça, de faire de l'intello comme du populaire. Est-ce que c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre ?
Oui, non, mais c'est une erreur. J'aurais dû faire comme tout le monde et ne montrer qu'une facette, m'y tenir. Et bon, cela dit, ça marche toujours très bien pour moi, donc tant mieux. Mais j'aurais peut-être pas eu la même carrière un peu, on va dire, incohérente, je sais pas comment dire. Mais enfin, et en même temps atypique, mais c'est sûr que...
Ah, moi, je trouve que c'est une richesse.
Vous croyez ? Je me suis un peu plantée, moi. Je sais rien. Ouais. Je suis encore là, je suis en pleine crise de la quarantaine. Je sais pas si j'ai montré les bonnes choses. En tout cas, j'ai passé mon temps à prouver que j'avais un cerveau, et ça, c'est pas facile.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
Pendant ces années de télévision, il y a eu un moment où vous étiez devenue, aux yeux de certains médias people et des réseaux sociaux, j'ai l'impression, un peu la sale gosse du PAF, celle dont on épile les faits et gestes, dont on moque un peu la moindre sortie. Comment ça s'est passé, cette période ? Vous lisiez tout, vous vous en protégiez ? Enfin, comment on fait face à ça ?
Oh, c'est difficile, hein, parce que moi j'étais la première justement animatrice à me faire torpiller sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas avant. Bon, c'est difficile, il y a eu des moments où j'ai eu des pensées un peu sombres et tout, parce qu'on s'y attend pas, on n'est pas du tout, aujourd'hui les jeunes ils sont un peu aguerris à l'exercice, moi pas du tout, je vais me faire insulter par des gens que je connais pas, c'est quand même un peu curieux. Donc au début je lisais tout, ça me terrassait, bon, après j'ai pris le parti de ne plus rien lire et ça allait mieux. Mais oui, à un moment il a été de bon ton de se moquer, de m'insulter, même sur des prises de paroles que j'ai fait. Alors ça me fait rire, parce que maintenant on se rend compte que finalement elle avait raison, finalement bon, mieux vaut tard que jamais. Et puis à l'époque, moi, il n'y avait pas cet esprit de sororité qui nous anime en ce moment. Il n'y avait pas ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir des grandes sœurs, des figures féminines qui m'auraient pris un peu par la main, qui m'auraient dit peut-être de me calmer à un moment, de me taire à d'autres, de réfléchir à deux fois avant de parler. Moi, j'ai eu personne. Tout le monde m'est tombé un peu dessus. Après, en même temps, ça m'a forgé. Je suis un peu tout terrain maintenant. Ça glisse, quoi.
Vous dites, j'aurais aimé qu'on me dise peut-être calme-toi ou ne dis pas ça. Il y a des choses que vous regrettez ?
Pas des propos, mais la forme plutôt. Il y a des formes qui étaient quand même un peu... J'ai retombé sur un extrait de moi la dernière fois qu'on m'a envoyé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Et je me suis dit, ah oui, je comprends pourquoi j'agaçais. Mais je pense que quand on est dedans, c'est une telle machine. Et puis c'est compliqué, il faut jouer des coudes quand on est dans une émission avec 10 chroniqueurs autour de la table, quand il n'y a que 2 femmes. Donc il faut jouer des coudes. Et j'avais l'impression que le volume sonore, en fait, c'était vraiment ce qui allait, vous voyez, me faire sortir du lot. J'étais jeune, je n'avais pas d'expérience, moi. Je ne savais pas quoi faire. Du coup, je criais.
Mais vous vous battiez pour exister.
Ah bah oui, vous imaginez. J'étais seule, parce que bon, ma comparse, c'était Valérie Benaïm, qui n'a pas du tout la même image, qui avait déjà vachement plus d'expérience, Valou. Moi, je suis là, je débute, je me retrouve autour de 10 mecs, journalistes, qui ont des avis sur tout. Il faut jouer des coudes, hein, faut se faire entendre. C'est mon job, on me demande mon avis, je le donne. Donc, la forme, parfois, était pas très fine.
Est-ce que toute cette attention, un peu presque même cet acharnement de la presse people à un moment, Je me suis demandé s'il n'y avait pas un moment où, quand une femme arrivait à un certain niveau de notoriété ou de popularité, elle allait forcément se faire punir, être punie, entre guillemets, par ce type de presse, parce qu'elle avait justement ce niveau de popularité ou de notoriété. Pour moi, le cas d'école de tout ça, c'est Britney Spears, qui à un moment se retrouve face à une presse extrêmement hostile. On vient de se rendre compte maintenant à quel point elle a été harcelée. Est-ce que votre histoire, elle ressemble pas un petit peu à ce moment-là, à celle de, à toute proportion gardée?
Oui, voilà, toute mais proportion gardée, non.
On
mais...
se rend compte que c'est pas à la même échelle, mais c'est le même processus.
Non, mais là où je vous rejoins, par contre, pleinement, c'est que ça n'arrive pas à des hommes.
Non, jamais.
C'est vrai, jamais. C'est, en fait, parce que la femme reste un objet de désir, un objet de convoitise, un objet aussi de jugement. Déjà, le succès d'une femme, c'est toujours douteux. On se demande toujours d'où ça vient. On se dit, est-ce qu'elle a couché? Est-ce qu'elle est vraiment qualifiée? On est sans cesse remise en question sur notre succès. Un homme, pas du tout. Un homme peut arriver à un poste très important sans passer par la case galère, et on trouve ça tout à fait normal. Nous, non, on est obligé à chaque fois de se justifier. On est obligé de raconter notre histoire, d'où on vient, pourquoi on est là, se défendre. Non, j'ai pas couché. Oui, j'ai couché, je vous emmerde. Peu importe l'histoire, d'ailleurs. Moi, j'ai un peu, effectivement, subi, effectivement, les foudres, je crois, de la jalousie, probablement. Et puis, surtout, ça, j'étais là, un peu la première jeune fille, blonde, un peu sexy, qu'on avait un peu dans le cerveau. Normalement, on est l'un ou l'autre. Alors, ça agaçait un peu. Normalement, avec un physique un peu outrancier comme ça, comme j'avais à l'époque... Bon, c'est où tu fais du porno, tu présentes le journal du Hard, ou tu lis un prompteur et tu fais la météo. Vous voyez le genre? Bah moi non, il se trouve que j'avais des choses à dire. Je sais pas, sur Louis-Ferdinand Céline par exemple. Ah bon, tu connais? Bah ouais, je connais. Désolé, j'ai été à l'école. Bon, c'était un peu comme ça.
Vous avez écrit, toujours dans Un cri du ventre, « J'ai longtemps endossé une double existence. Petite blondasse vulgaire la nuit, tante Quechua le jour. Plus je me dénudais le soir, plus mon corps m'écœurait pendant la journée. » Je le recouvrais d'épaisses couches de fringues de plus en plus masculines et de baskets de plus en plus imposantes. Ça vous a fait du mal, ces années de télé, on a l'impression?
Oui, c'est très... mais je pense que ça, c'est valable pour beaucoup de femmes. Surtout quand on a été très hypersexualisée comme ça. Moi, j'avais l'impression qu'en plus, que c'était ça qu'il fallait faire. J'avais l'impression que pour exister, il fallait s'hypersexualiser, il fallait du décolleté. J'avais vraiment l'impression que c'était ce jeu qu'il fallait jouer. Et comme je vous l'ai dit...
Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre choix.
Il n'y avait pas tellement d'autres choix. En tout cas, moi, à chaque fois que j'essayais, par exemple, d'arriver sur le plateau en Enora, c'est-à-dire comme telle que je suis, avec... plus couverte, on va dire, on me renvoyait en loge pour me changer. Hein.
Ah ouais.
Illico.
Illico, on vous disait ah non,
ça va pas.
Ah
mais non, mais c'était interdit. C'est-à-dire c'était ça où tu fais pas l'émission. Faut quand même se le dire.
Mais qui vous disait ça? Il y avait un red chef ou un producteur ou
C'était selon.
Selon.
Ça pouvait être le producteur, ça pouvait être un rédacteur en chef, ça pouvait être un assistant, que sais-je, ça pouvait être même la styliste. C'était lunaire, mais ça n'est jamais arrivé que je puisse m'habiller comme je le voulais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est davantage possible. Moi, ça ne l'était pas encore. Et ça a été le cas, pas que pour Touche pas à mon poste d'ailleurs, hein. Pour beaucoup d'émissions, même quand j'y allais en invité, on me reprochait parfois, je ne peux pas complètement balancer, mais on me reprochait d'arriver « Ah, mais t'es pas sexy aujourd'hui !» Bah non, je suis invitée, donc je... Ah non, mais j'ai vécu des trucs, bon après, il n'y a pas que moi, hein, mais lunaire. Et donc du coup, moi qui ne suis pas comme ça, et du coup... Ça peut paraître très bizarre le raccourci que je vais faire, mais je me sentais un peu cracra. Et du coup, forcément, la réponse le soir, c'est vraiment de s'en mitoufler, quoi. Parce qu'encore une fois, j'avais un peu honte, parce que je sentais que j'étais pas au bon endroit. Je sentais que j'étais, vous voyez, que ça me faisait pas du bien, tout ça. C'était une mascarade. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup de femmes en télé. Je sais pas comment elles font pour vivre ça, ce... Enfin bon, voilà.
Le fait de que son corps soit utilisé pour attirer l'audience,
on
se sent forcément à un moment utilisé.
Bah d'être hyper objectisé, c'est quand même très particulier comme sensation, quand même. Hein, d'être à la... En fait, on n'est pas vraiment un. On est. Moi, je me rends compte que j'étais là, c'était le rôle de la petite blonde, gueularde, sexy. Il fallait faire quand même bander un peu le chaland. C'est très particulier. Hein, y a une forme de. Je vais aller très très loin dans la métaphore, mais pour que ça soit clair, il y a une forme de proxénétisme là-dedans. Je trouve, si on étire la pensée, bien sûr, hein, c'est pas
oui,
le cas.
Bien sûr.
Mais je trouve que voilà, et quand on sort de ça, on est très abîmé. Moi, j'ai commencé à faire de la dysmorphophobie. On sait plus trop qui on est. Est-ce qu'on est cette femme de la télé? Et puis, comme j'étais complètement l'inverse dans la... Enfin, il y a de quoi être franchement très perdu. Donc, on met du temps à se reconstruire et aussi à se déconstruire, du coup.
Comment vous avez décidé de partir de TPMP?
Après le sketch homophobe. Ça, c'était pas possible.
C'était celui où, juste pour donner du contexte...
En fait, un soir, lors d'un prime time, Cyril, je sais qu'il ne l'a pas fait exprès, mais a outé quelqu'un en direct. Et puis, ça a été très maladroitement géré, cette histoire, et je suis partie. Ça faisait déjà un moment que j'étais malheureuse. Je me retrouvais... J'avais fait le tour de ce personnage dans l'émission. Je souffrais beaucoup. J'étais très maltraitée par les gens de l'émission. Enfin, vraiment, le côté mansplaining tout le temps. Enfin, c'était très difficile. La chaîne aussi, tout. Ils se sont excusés depuis. Les temps ont changé, et c'est très bien. Mais il était temps de partir. Mais l'élément déclencheur a été un reportage que j'ai fait avant, quelques semaines avant, où je suis partie en mer filmer des pêcheurs bretons. Et comme je suis bretonne, je sais pas, ça m'a reconnectée à moi-même et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, ma grande ? Pourquoi est-ce que tu fais l'andouille à la télé pour que tu racontes rien ? Tu sers à rien. Retrouve-toi, il est temps, sinon tu vas couler.
Et il paraît qu'avec votre famille vous a fait une fête de célébration quand vous avez quitté TPMP. Ils s'inquiétaient pour vous ?
Bah, ils détestaient l'émission. Donc, quand je leur ai dit que je partais faire ça, ils n'étaient pas contents du tout. Donc, quand je suis partie, effectivement, c'était l'effet inverse. Ils ont festoyé. Et puis, je peux vous dire que nous, en breton, il y a eu bonne fête.
C'est vrai qu'on ne va pas passer toute l'heure sur TPMP, je vous rassure.
Non, mais non, juste... tout va bien.
C'est vrai que quand on re-regarde aujourd'hui certains extraits, on est choqué de la façon dont les chroniqueurs et le présentateur Cyril Hanouna vous parlaient. Je me souviens qu'il y avait eu une polémique que moi je trouve aujourd'hui complètement stupide sur une interview que vous aviez menée de Pharrell Williams. On n'aurait jamais reproché ce qu'on vous a reproché
aujourd'hui,
à un mec.
Jamais.
Jamais. Jamais. Et en plateau, après, Cyril Hanouna vous dit « Une femme ne doit pas s'allonger comme ça à côté d'un artiste, tu passes pour une fille facile. »
C'est fou, hein.
C'est chaud. Ouais.
Ah, mais c'est... Ça a failli... Là, quand je vous parlais de pensées sombres, moi, après ce tsunami-là, moi, j'ai vraiment cru que j'allais me foutre une balle, mais je vous le dis vraiment, hein, c'était vraiment mal. Surtout qu'en plus, il y a cette polémique. Déjà, cette interview ne devait pas être filmée. Finalement, elle est filmée, elle ne devait pas être diffusée, elle devait être juste radiophonique. Enfin bon. Bref, c'est une interview qui est une mauvaise interview. L'interview, elle est pourrie, mais... Je veux dire, c'est pas ça qu'on m'a reproché. Ma position sur le canapé, c'est quand même dingue. Deux semaines après, un autre animateur fait la même chose allongé sur un canapé, on lui a pas dit. Et effectivement, tout allait bien. La polémique redescendait grâce à mes potes Ariel Wiesman et Ali Badou, qui, lors d'une émission qu'ils animaient ensemble le midi à l'époque sur Canal+, m'ont invité pour faire redescendre la pression en disant « Attendez, on va peut-être arrêter, ça s'appelle du sexisme, etc. » Bon, tout allait bien. Je m'auto-parodie sur un canapé, en plus, à la fin de l'émission. Allez, c'est joyeux,
super,
on en parle plus.
Super, autodérision.
Ouais,
ça,
top voilà. Et puis voilà, très bien, la messe est dite. Le soir même, on me prévient pas. Je suis sur le plateau en direct et je découvre en direct le sujet du jour qui est, en gros, on va se faire Enora, quoi. Et donc, tous les chroniqueurs me sont tombés dessus les uns après les autres et le coup de grâce donné par mon propre patron, ma propre famille, qui me dit la phrase que vous venez de dire. Parmi tant d'autres. Je suis sortie dévastée. Mais dévastée. Parce qu'en plus... C'est tellement pernicieux. Et j'avais tellement pas de soutien à l'époque, il n'y avait pas cette sororité, encore une fois, il n'y avait pas MeToo, que moi, quand je rentre chez moi, ben moi, je pense que j'ai mal agi. Et je me dis, bah ouais, tu t'es mal tenue, tu t'es mal comportée, vous imaginez ?
Oh, j'ai envie d'aller dans le passé et de pouvoir vous prendre dans mes bras.
Mais bon, maintenant, je m'allonge toujours, du coup.
Je fais que mes interviews
allongées. Exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se passerait plus comme ça.
Est-ce que vous décrivez cette scène, le fait d'arriver en direct, de ne pas savoir, d'avoir toute l'équipe qui vous tombe dessus, ça ressemble à du harcèlement, non ?
Oui, bien sûr. Mais on n'avait pas... Ils n'avaient pas... Moi, encore une fois, je... En plus, alors, les autres, non. Mais Cyril s'est vraiment excusé à... Bon, parce que j'ai gueulé aussi. Mais,
ouais.
Mais l'essentiel, c'est de se rendre compte aussi, je trouve. Hein. Il faut qu'ils se déconstruisent aussi, ces fameux mâles, vous voyez, de l'ancien monde. Hein. C'est pas si simple. L'essentiel, c'est qu'ils y arrivent, qu'ils y parviennent. Mais c'est vrai qu'à l'époque... C'était un peu la télé de l'humiliation, hein. Je veux dire, moi, c'est pas la seule fois. Il y a une autre fois où, pareil, on me fout au milieu de l'arène. Est-ce qu'Enora est une animatrice valable ? Bah, t'es mon producteur. C'est toi qui m'as fait naître, c'est toi qui m'as mis à l'antenne. Bon, et hop, ça revient. C'était un peu particulier, mais parce qu'en fait, ça fonctionnait. Les gens, vous savez, c'est le jeu du cirque. Pouce levé, pouce baissé. Les gens adoraient ça. Donc, nous, on était dans un tourbillon. Et moi, je me rendais même pas compte que je me faisais maltraiter. Je trouvais ça normal. Donc évidemment qu'au bout de 7 ans, je sors de là essorée, amoindrie et fragilisée et que je m'en vais et que je veux plus faire de télé tout de suite après.
Évidemment.
Ouais. La meuf est complètement détruite, quoi.
Dernière question sur TPMP. Récemment, là, il y a une chercheuse, Claire Sécal, qui a étudié le traitement des invités politiques en plateau en ce moment. Elle en est arrivée à la conclusion que 53% du temps d'antenne politique de l'émission était consacré à l'extrême droite. Est-ce que ça vous surprend ?
Alors, je crois aussi que d'après ce qu'a dit Cyril, c'est que les autres ne viennent pas aussi. Donc peut-être soit-il aussi que ceux qui veulent bien venir dans l'émission. Et il se trouve que ceux qui veulent bien venir dans l'émission, peut-être aussi parce qu'ils ne se sentent pas en danger, je l'admets, sont des gens qui sont plutôt très à droite. Moi, je ne vais pas trop alimenter, parce que ça peut être pris un peu partout, mais je suis contente de ne plus y être en ce moment. Parce que je ne sais pas si j'arriverai à garder mon calme devant certaines personnes qui le reçoivent. Après, malheureusement, il faut les... Voilà, c'est... Ils ont senti, dans ce groupe, je crois qu'ils ont senti le vent du populisme et qu'ils s'en sont emparés.
Vous pensez qu'ils l'alimentent ?
Je ne sais pas. J'espère pas.
Merci beaucoup, juste. Je suis obligée de vous couper une petite poignée de secondes. On se retrouve juste après ça.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
On peut plus rien dire.
Mais on va le dire quand même.
Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire, édition spéciale Grand Entretien avec notre amie Enora Malagré.
Coucou.
Enora Malagré, comment vous êtes devenue féministe ?
Oh bah je le suis pas devenue, je le suis. Enfin moi j'ai été élevée par une maman. Moi je viens d'une lignée de femmes féministes. Ma grand-mère l'était, mon arrière-grand-mère même l'était profondément. C'est des femmes qui se sont battues pour le droit des femmes. Ma mère, je vous en parle même pas. Donc je crois que moi c'est un peu dans mes gènes. Moi j'ai été élevée vraiment par une maman qui m'a sommée carrément de ne pas vraiment qui m'a rabâchée que je valais autant qu'un homme, si ce n'est plus. Donc, j'ai jamais eu de peur, donc j'y suis allée. Et après, ça s'est transformé en activisme. Mais je crois que je l'ai depuis toujours, ça.
Dans votre livre, vous racontez avec beaucoup de courage les différentes fausses couches qu'ont induites votre maladie, l'endométriose. Vous décrivez aussi un avortement suite à une grossesse extra-utérine et vous racontez à quel point ça fait mal, à quel point ce sont des expériences extrêmement douloureuses. Pourquoi, selon vous, ce sont des choses... On commence à en parler, mais c'est... Je ne sais pas combien d'amis nous racontent qu'à la suite d'un avortement, on leur a dit « rentrez chez vous, prenez la pilule, ça va passer ». Et en fait, elles se retrouvent à se tordre de douleur dans leur salle de bain, mais presque comme un animal. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'elles ont. Pourquoi on nous laisse autant souffrir ?
Oh ben, je crois que c'est très... Vous savez, le mot « souffrance » et le mot « femme », ça a toujours fait bon ménage depuis la nuit des temps. On est habitués, nous. On a été vraiment... on a été conditionnés pour souffrir en silence. Donc, on se fait tabasser, on ne le dit pas. On est moins payé, on ne le dit pas. On se fait humilier, on ne le dit pas. On va bosser, on ferme notre gueule, on s'occupe des gosses. Vous voyez, c'est très inhérent enfin voilà, c'est très féminin. Je crois qu'il est temps justement d'arrêter ce cercle, ce cycle. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Vous avez compris, pardon.
Oui, oui.
Et donc, je pense aussi que tout ce qui touche à l'intimité de la femme est à la fois... tellement sacralisé, puisque c'est le temple de la fécondité, etc., que du coup, quand il est défaillant, on n'a pas envie de le savoir. C'est sale. Donc vraiment, c'est de l'ordre de... Enfin, vraiment, on ne peut pas l'accepter, quoi, de l'inacceptable. Donc, je pense que c'est un peu tout ça mélangé. Moi, je ne suis pas philosophe, hein, j'essaie de vous le dire avec les mots
sûr,
à moi.
Hein.
J'espère que je ne suis pas trop débile, mais... En tout cas, c'est sûr que moi, je m'étonne encore, par exemple, quand on parle des fausses couches, de voir que même entre nous, entre femmes, on a du mal à en parler. On a du mal à se livrer. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on s'habitue à se livrer, qu'on s'habitue à se parler.
C'est quoi pour vous être sororelle ? La sororité, ça veut dire quoi pour vous ?
Je crois que c'est une bienveillance, mais sans concession. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une sororité qui s'installe aujourd'hui qui est assez jolie, mais elle est encore un peu sélective.
C'est-à-dire ?
À mon goût. Oh bah, certaines n'ont pas la carte, certaines ne bénéficient pas de ces sororités. Moi, j'en ai pas toujours bénéficié. Je vois des jeunes filles qui n'en bénéficient pas. Moi, je suis la première, par exemple, à cracher sur la télé-réalité, je veux dire le concept de la télé-réalité. J'ai été très agressive, très offensive vis-à-vis de ce système-là. Pour autant, les gamines qui font de la télé-réalité, j'ai envie de les protéger, de les embrasser, de leur expliquer à quel point ça peut être dangereux, etc. La sororité, c'est aussi de prendre soin de nos sœurs sans forcément comprendre pourquoi elles font ça. Vous voyez, c'est vraiment une bienveillance totale, gratuite. Et je trouve que vraiment, j'espère qu'elle va être moins sélective. Je trouve que il faut avoir un peu la carte aussi.
C'est quelque chose que vous êtes en contact avec des jeunes. On dit pas actrice de télé-réalité d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit
Participante
de la télé-réalité. C'est quelque chose que vous essayez de faire ?
Non, je suis pas vraiment en contact, mais par contre, il y a une grosse communauté sur les réseaux et il y a des petites nénettes qui me disent je suis telle personne. Et on en parle, parce que moi, je comprends pas tout aussi.
Oui.
Je suis un peu larguée sur des choses, donc c'est vachement chouette, on échange. J'essaye de comprendre, moi, ce phénomène que j'ai alors longtemps décrié. Maintenant, il faudra essayer de comprendre pourquoi ça perdure. Moi, j'essaye de leur expliquer que c'est une image de la femme qui, pour moi, est pas tellement, justement, féministe, parce que, justement, elle continue de s'hyper-objetiser, de s'hyper-sexualiser.
Encore pire, parce que maintenant, c'est la chirurgie,
encore,
les implants,
voilà,
ça va de plus en plus loin.
Donc, je trouve que, voilà, j'essaie de les mettre en garde sur ces dangers-là, sur ces modèles-là, qui sont des modèles en plus d'hyper-vie, de réalité augmentée. C'est pas ça la vie. La vie de Nabila, c'est pas la vraie vie. Nabila, elle a construit un empire, très bien, voilà, elle est toute refaite, bidule, elle est heureuse, elle a ses enfants, elle a plein d'argent. Mais c'est pas... On n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Donc bref... Bon, mais en tout cas, j'aime cet échange, parce que parfois j'ai tort aussi, parfois je passe à côté d'infos, parfois je juge. Je crois qu'il faut arrêter de juger. Il faut juste essayer de se soutenir et voilà, de s'accompagner les unes les autres.
Est-ce que il y a des femmes qui ont changé votre parcours professionnel, votre vie ? Est-ce qu'il y a une ou deux femmes qui ont été des rencontres déterminantes pour vous ?
Oui. Il y en a eu une en particulier, donc Fadia Dimergi, qui était la cofondatrice de Radio Nova, qui a vraiment, vraiment changé ma vie, mais totalement. Après ma mère, bien sûr, parce qu'elle m'a tout appris. Elle m'a mis des bouquins dans les mains, elle m'a emmenée voir mes premières expos, elle me parlait, donc c'est elle qui m'a fait découvrir Nat Goldin dont je parlais. Elle m'a appris un métier aussi qui se trouve être un peu le mien aujourd'hui. Moi, j'envisageais pas du tout de faire ça, je pensais que je serais comédienne, point, ce qui était déjà pas mal. Donc non, ça a tout changé. Et après, c'est des rencontres d'amitié. C'est pas rien d'avoir, j'ai deux meilleures amies, Marion et Marie-Hélène, et c'est des femmes qui ont changé ma vie. De se sentir accompagnée, entourée, c'est pas rien. On n'a pas besoin d'avoir 50 amis. Voilà, moi j'ai mon duo et parfois ça empêche de couler.
Vous racontez dans votre livre, et je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir décrit aussi directement comment ça se passe, une fausse couche ou un avortement médicamenteux. Vous racontez la douleur, vous écrivez « J'ai mal, un cri m'échappe, le sang coule, j'ai chaud, je transpire, je m'éponge le front avec une serviette humide. Les yeux rivés au plafond un court instant, j'ai l'impression de tenir la main de toutes celles qui sont passées par là avant moi, femmes de tout pays, de toutes couleurs, de tous les temps. » Il y a une beauté dans dans l'universalité un peu du sentiment d'être une femme.
Ah ouais. Moi, c'est quand je l'ai écrit, je le ressentais très fort parce que je me souviens très bien de ce moment. J'ai vraiment ressenti ça. C'était malheureusement
évidemment une beauté. Non, il y a beaucoup de souffrance, mais il y a une
il y a une sorte de grâce, ouais. Il y a quelque chose
de penser qu'il y a la mère de la mère et la fille de la fille de la fille.
Je crois que ça m'a aidée. Moi, à un moment donné, quand je décris cette scène, je l'avais pas ressenti avant. C'était malheureusement pas ma première fausse couche. Et là, ce jour-là, je me souviens dans cet hôtel, c'est comme si je les sentais et je me suis dit mais en fait, t'es pas toute seule. d'autres l'ont vécu, d'autres le vivront. Et nous avons quelque chose de précieux, c'est cette capacité, nous les femmes, de pouvoir encaisser de telles souffrances et d'arriver toujours à se relever. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on fait. Non, mais on peut être... Moi, je suis tellement fière d'être une femme. C'est pour ça que j'aime tellement les femmes. Alors, mais t'as pas de pote mec. Bah non, m'en fous. Mais parce que je suis en amour. Je vois, mais quel que soit le sujet, le travail, les enfants, la non-parentalité, les choix que font les femmes, l'audace, le fait rien que de vouloir... Je vois certaines jeunes filles, je les vois oser parfois, je les vois, j'observe beaucoup les jeunes filles. Elles sont dans des tablés, elles osent faire des vannes. Ah là là, mais qu'est-ce que... Je trouve ça tellement beau, une femme qui ose. Et on se relève de tout, nous. C'est fou quand même.
Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le choix aussi ?
Je crois que c'est parce qu'on a... Non, mais parce que je pense que depuis la nuit des temps, encore une fois, on a tellement été habitués à souffrir en silence qu'effectivement, ça a fait de nous des femmes très fortes. C'est vrai que les mecs qui ont des rhumes et qui ont l'impression qu'ils vont crever, mais c'est quand même fantastique, quoi. Et puis, c'est pas des petits problèmes, je veux dire. C'est une somme de souffrances accumulées. Et on est là, on y va. Non, mais c'est fou, le nombre de témoignages. Enfin, bon, bref. J'aime les femmes.
Dans votre livre, vous vous confiez aussi sur le sentiment de discrimination que vous pouvez ressentir parfois de ne pas avoir eu d'enfant. Vous racontez un dîner parisien où tout le monde vous saoule, en gros, genre « pourquoi t'as pas d'enfant ? Dépêche-toi », etc. On la ressent tout au long de sa vie, cette discrimination, ce sentiment, ce harcèlement ?
Cette injonction, elle est quand même folle. Moi, il y a encore pas longtemps, je l'ai redit sur les réseaux sociaux, on m'a encore dit « t'as pas d'enfant ? Mais pourquoi t'as pas d'enfant ? C'est pas trop dur de pas avoir d'enfant ? Ah bon ? Mais pourquoi t'as... ?» Mais déjà, je trouve que cette question est d'une intrusion hallucinante.
Hallucinante.
Je ne suis pas qu'un utérus. Je n'ai pas d'enfant. C'est pas pour ça que je ne suis pas une femme valable. Je trouve ça hallucinant qu'on se permette de me poser cette question. Et souvent dans les dîners, d'ailleurs, parce que maintenant que j'ai un peu plus de 40 ans, « Salut, comment ça va ? T'as des enfants ?» C'est pratiquement la deuxième question qu'on me pose. Même avant même qu'on me demande si j'y vais bien, quoi. Je trouve ça hallucinant. C'est une espèce de convention sociale complètement normale de demander à une femme si elle a des enfants. Comme, d'ailleurs, quand une femme est enceinte ou gaiement, les gens posent la main sur le ventre de la femme enceinte. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on ait des enfants ou pas, notre utérus, apparemment, a l'air d'appartenir à tout le monde et à la société. Ben non. Non, je suis désolée. Et moi, je me bats justement pour ces femmes qui n'ont pas d'enfants, soit parce qu'elles ne peuvent pas en avoir, mais aussi qui ne veulent pas d'enfants, et qui ont droit aussi au respect et à la considération. Et ça, il y a encore du boulot. Une femme, forcément, doit être pondeuse. Et si elle ne pond pas, elle est forcément défaillante. Elle n'a pas d'enfants, il y a quelque chose de louche. Elle doit être chiante, elle doit être folle. Vous voyez, bah non, je veux pas d'enfants, point.
Tout à fait. Vous avez des mots très forts dans votre livre quand vous racontez comment vous réagissez dans ces dîners. Vous dites « Je dégueule mon endométriose en pensant que l'honnêteté payera toujours, mais le dégoût prend souvent le dessus et je me sens comme la femelle à bannir de la meute. »
C'est ça. C'est ça ce que je viens de vous dire, c'est la femelle défaillante. Je me suis dit vraiment, et ça c'est des dîners que je vis, mais encore maintenant, pratiquement tous les mois. Je veux dire, c'est... Et puis c'est lourd, c'est d'une lourdeur de vraiment de devoir être réduite à ça.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai pas envie d'être réduite à, encore une fois, un utérus. Et vraiment, on est mise de côté. On est bancal d'un coup et on est effectivement... Du coup, on devient un peu hors de la société. Alors, soit on nous regarde avec du jugement, soit on nous regarde avec de la pitié. L'un ou l'autre de ces regards est horrible.
Horrible.
Bon, moi j'aimerais une indifférence. Bon. Et encore une fois...
Ou même de la curiosité, de la sincérité.
Et ce jugement... Alors, certains hommes le ressentent, mais moi, pareil, un homme qui a choisi, par exemple, à 50 ans, de ne pas avoir d'enfant, il passe presque pour un aventurier, un homme libre.
Tout à fait.
Une femme qui, à 50 ans, n'a pas d'enfant, elle a forcément foiré sa vie. C'est quand même fou d'être encore à ce point d'inégalité.
Dans votre livre, vous confiez aussi que c'était une grande douleur pour vous de ne pas réussir à avoir un enfant. Est-ce que vous accepteriez de nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette question ? Est-ce que vous en avez toujours envie ?
J'en ai toujours envie, c'est ce que je dis aussi un peu dans le bouquin. Moi, j'ai fait le deuil d'être enceinte, mais pas forcément d'être maman. On peut être maman autrement.
Bien sûr.
Après, les chemins sont là. J'en suis que là, il va quand même vraiment falloir que je m'occupe de cette adoption parce que les solutions ont toutes été un peu testées, je dirais. Mais c'est encore une autre aventure et c'est encore pas évident. Et c'est encore long. Donc on sort de 10 ans de souffrance et on nous demande de remontrer patte blanche et d'attendre. Rien n'est simple. Mais c'est peut-être mon destin, c'était celui-là. Je serais peut-être maman à 50 ans, j'en sais rien.
Dans votre livre, vous commencez votre livre avec une citation de Bukowski, du poète Bukowski. Vous citez « La perfection me dégoûte. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui cherchent la perfection dans les stéréotypes créés par la société me font vomir. Même vêtements, même musique, mêmes expressions, mêmes aliments, même galipettes, même voiture, même vie et finalement, même suicide neuronaux de masse. Parce que vivre comme un automate est sans doute un suicide. Quand tout le monde est pareil, tout le monde n'est personne. La perfection est un petit oiseau en cage qui vit, mange, chie et meurt dans le seul but d'être admiré. Je veux vivre libre. » Frigorifié, froid, affamé, mais libre. Pourquoi vous avez choisi cette citation précisément ?
Oh bah pourquoi pas surtout. Elle est pas mal.
Ah
hein.
Elle est très belle. Ouais.
Moi j'aime beaucoup Bukowski. Oh bah je trouve qu'elle me ressemble et puis je trouve qu'elle m'arrangeait bien. Elle justifie pas mal de ma vie je trouve. Oh ouais. Moi le mot vraiment j'ai été élevée comme ça et je mourrai comme ça. C'est extrêmement banal, mais moi c'est la liberté d'être une femme libre. C'est ce que j'ai toujours voulu être, n'en déplaise.
C'est quoi être une femme libre ?
De faire exactement ce que je veux au moment où j'ai envie. Encore une fois, sans que il ne faut pas que ma liberté empiète sur le bonheur des autres. Mais je fais les choses à l'instinct. Je fais les choses le nez au vent, comme j'ai envie de les faire. Je ne m'interdis rien, j'envisage tout. Et je crois, et même mes erreurs en fait. C'est ça aussi la liberté. Je m'accorde la liberté de me tromper. Vraiment. Et c'est pas mal. Moi, je trouve que la liberté, c'est vraiment ça. C'est de ne absolument rien s'interdire.
Eh ben, c'est un magnifique mot de la fin, n'absolument rien s'interdire. Un immense merci d'avoir été avec nous, Enora Malagré.
Merci beaucoup.
Je rappelle le nom de votre pièce de théâtre, Derrière le rideau. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice, Alice Ninin. Notre chère stagiaire, Agathe Albuy. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers amis, faites comme Enora, ne vous interdisez rien.
On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.